ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
Bonjour et bienvenue dans Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma. Et réciproquement, notre programmateur musical du jour est un auteur, compositeur et chanteur français. On devrait ajouter qu'il est également peintre, écrivain, graphiste et photographe. Cet ancien élève des Beaux-Arts passionné de cinéma est à ce jour l'auteur de plus de 20 BO de films et de ses chansons. Il a dit qu'elles se visionnent, je cite. C'est dire s'il a toute sa place dans cette émission. Alors au cours de la promenade enchantée qu'il nous a préparée ce matin, on écoutera entre autres Jean.
Alléluia, alléluia,
alléluia.
Francesca.
Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
Et Bob. Bonjour Charlie Lécouture.
Salut, salut.
Et bienvenue, bienvenue, refrain, couplet, action.
Laurent Delmas présente.
Moi je m'en fous, je triche.
C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson-là. Les paroles sont très jolies.
Ciné qui chante sur France Inter.
Charlie Lécouture, cette émission s'ouvre par une question rituelle à nos invités. Vous n'y couperez pas. Mais comme c'est la fin de la saison, notre réalisatrice a réalisé un petit medley, comme on dit, un fleurilège en français, de certaines réactions de celles et ceux qui vous ont précédé sur cette chaise quand on leur a posé la question que je vais vous poser ensuite. Okay. On écoute.
Oh, oh là là.
Ah,
waouh.
Ah là là. Merde, je ne sais pas.
Voilà, on rend hommage à tous ces invités qui nous ont si bien répondu. Alors je vous pose la question, vas-y. Charlie Lécouture. Vous allez le faire, je suis sûr. Dans quel film aimeriez-vous vivre? On va la raconter.
Ok, je sais pas, le nom de la rose, tiens, par exemple.
Vous jouiez quel rôle? Celui de l'enquêteur?
Bah, bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr.
Le héros,
sûr,
Sean Connery.
Oui, ou un des moines baiseurs, quelque chose comme ça.
Ah, ça, c'est autre chose, alors. C'est une autre
non,
dimension.
Non, je sais pas, en fait, plutôt un des moines, parce que je me vois bien avec une plume à la main. Mais il me reste de ce film l'idée du rangement, à un moment donné, où, en fait, il arrive et il y a des bouquins, il y en a partout, et à ce moment-là, la notion de rangement n'a pas encore été établi. Rangement qui signifie en fait organiser les choses de même taille ou de même sens. Et ça m'a beaucoup servi dans la vie de tous les jours quand j'arrive dans une sorte, disons que à force d'agir, les objets s'accumulent les uns côté les autres. Puis après, on ne sait plus comment les organiser. Et m'est revenue l'idée de les ranger soit par taille, soit par signifiant.
Il faut régulièrement ranger sa chambre comme. Alors, disent les parents aux enfants.
Oui, par exemple, et comme je viens de revenir de New York au mois d'avril, mon déménagement est arrivé, et du coup, il m'a fallu assimiler dans deux endroits des choses qui étaient éparses et qui venaient d'ailleurs, donc voilà, etc. Voilà, comme ça, comme l'idée du nom de la rose m'arrive là-dessus avec.
Bon.
Voilà, etc.
Nous la retenons, ainsi peut-être. Que vos multiples réactions qui donc s'ajouteront à ce beau medley concocté, je le rappelle, par Sonia Leiglen, et on l'en remercie encore. Votre premier choix musical va nous mettre en joie. Il est extrait de la BO de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, film que Jean-Yann a réalisé en 1972. Alors, pour être tout à fait honnête, vous aviez choisi la chanson-titre, chantée par Jean-Yann, et puis il se trouve qu'on l'a passée tout récemment.
Ah, merde.
Non, dites pas ça, vous savez pas, parce qu'on en a choisi. On a choisi une autre. Franchement, elle est pas mal. Elle est également chantée.
Non, mais j'aimais bien l'histoire contre les flics. Là,
vous allez voir, y a d'autres cibles dans celle-là qui ne sont pas mal non plus. Okay. Elle s'appelle Alléluia Garantie.
Okay,
je vous propose de l'écouter d'abord, d'accord. On en parle ensuite.
D'accord.
Monsieur l'abbé, regardez votre soutane. Elle est verte. Eh oui, en vieillissant, le noir devient vert. N'hésitez donc pas à raviver ses couleurs avec Soutaneuf, le régénérateur de soutane, contenant de l'activotextigène à l'essence de 6 notes dégénérées. Soutaneuf, la résurrection de la soutane. Existe également Soutaneuf pourpre, Soutaneuf violet. Pour le blanc, devis spécial de nos laboratoires. Qu'y a-t-il de plus irritant que de tousser ou d'éternuer pendant l'office? Pour supprimer les mauvais rhumes, utilisez Rhinomycel, le livre de messe traité à l'eucalyptus et au bourgeon de pin naturel. Mon rhume est fini, je rends grâce au ciel. Merci Rhinomycel.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia.
Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice inventé le self-service. Alléluia, alléluia,
alléluia.
Dans le silence du jardin des oliviers, qui je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Alléluia, alléluia. Je suis le sauveur attendu, et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc quel cynisme inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia.
Le premier titre de la playlist de Charlie Les Coutures, notre programmateur musical du jour, c'est un extrait de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil de Jean-Yann en 1972. Et c'est Jean-Yann qui chantait Alléluia garantie. Les paroles étaient de lui, bien évidemment, et la musique du génial Michel Magne. C'est une façon aussi de rendre hommage certainement à ce compositeur de musique de film qui a été très très inspiré.
Disons que là, en l'occurrence, c'est on a l'impression d'entendre un chansonnier, quoi, et qui avec son insolence
et son bazooka.
Ces mots qui pincent, et en même temps derrière, il y a tout d'un coup l'orchestration sophistiquée. Énorme avec des gros cuivres, c'est très bizarre, mais en même temps ça a gardé une saveur qui est tout à fait à l'image d'aujourd'hui, quand on sait que le traducteur ne rapporte pas les mots exacts de Poutine quand il s'agit des gilets jaunes. Je veux dire, là on est exactement dans l'histoire d'un monde qui aujourd'hui marche sur des pensées convenues, et que ce personnage irrévérencieux de Jean-Yann qu'on stigmatisait déjà à son époque.
Voilà. Complètement, c'est un film d'une modernité absolue, mais dont on peut se demander si on le referait aujourd'hui.
Je ne sais pas si ça pourrait même être fait aujourd'hui.
Je ne sais pas si les chaînes de télévision ou les producteurs prendraient le risque financier de le faire.
D'ailleurs, il est relativement peu diffusé sur les chaînes d'une façon générale.
Ben oui, parce que les médias en prennent pour leur grade. Hein. Pas que, d'ailleurs. C'est un film qui tire partout. Tito Topin, son formidable illustrateur, disait que c'était un film qui attaquait à la fois Che Guevara et Jésus-Christ, c'est
la libre pensée française de cette époque-là, encore une fois, était quelque chose qui a du mal à passer aujourd'hui, dans la mesure où on est très autocritique. Avant les diffusions, le jugement, les préavis sont forts aujourd'hui plus que jamais, ce qui fait qu'à la fois on est sur certaines choses plus pudiques sur d'autres extrêmement virulents. Donc c'est bizarre pour nous qui avons vécu cette période du confetti où les idées partaient un peu tous azimuts, etc. Aujourd'hui, c'est bizarre de voir que les choses sont pré-mâchées avant. Mais bon, il y a d'autres choses qui apparaissent.
Hein. On va quand même rester dans cette période de très très grande liberté. Ouais. Grâce à vous, on est dans une autre forme de liberté avec le film de Barbet Schroeder en 1969, un tout petit peu avant, Mort. Alors là, c'est...
Là, on est dans le...
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le film et de vos impressions?
Oui, bien sûr. Je me souviens de l'ouverture que représentait pour nous toute cette vague d'expressions nouvelles avec une narration différente, des personnages qui étaient moins stéréotypés, alors là justement moins caricaturaux, et la musique de Pink Floyd qui rajoutait une espèce de profondeur ésotérique à la narration. Et donc j'aimais bien le rapport entre, encore une fois, des histoires qui étaient assez roots, quoi, et puis au contraire une musique qui était spatio-temporelle, ouverte sur
sans percussion qu'avec des oiseaux,
c'est ça, c'était plane. C'était joli, ça.
On plane beaucoup,
mais on ose, mais c'était avant le sampling, donc aujourd'hui c'est encore une fois, ces choses là sont plus faciles, mais à l'époque c'était comme ouvrir l'esprit sur quelque chose qu'on n'entendait pas, quoi.
Faut insister sur la grande audace, effectivement,
de cette musique. Production. C'est ça la musique de film, il faut reconnaître, pour moi qui compose à la fois, j'ai fait 23 albums de chansons et à côté de ça une vingtaine de musiques de film. Ce qui est intéressant dans les musiques de film, c'est que le format d'une musique de film est divers, parce que une chanson ça fait entre 2:40 et 4 minutes 20 en moyenne, alors que dans une musique de film, on peut n'avoir que des pastilles de 15 secondes, 20 secondes, 1 minute 30, c'est déjà beaucoup.
Petites ambiances.
Voilà. Ouais. Et du coup, on peut s'amuser avec des assonances, des dissonances, des trucs qui vont faire que, finalement, une musique de film, c'est quoi? C'est dire ce que les mots ne disent pas. C'est rentrer dans la tête de quelqu'un, suggérer des trucs. J'ai souvent l'habitude de dire qu'une musique de film, c'est comme la surface au sol. C'est-à-dire, on la voit pas, mais selon qu'on est sur de la moquette ou sur du plancher ou du gravier, on va pas se comporter de la même manière. Et le corps va bouger différemment. Bah, pour les comédiens, c'est un peu la même chose.
Belle métaphore. On écoute tout de suite Cyrus Minor des Pink Floyd.
Time. The rhythm of the shots was accelerating. Time disappeared.
In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand miles of moonlight later. Thank you.
Cyrus mineur par Pink Floyd dans la BO de du film de Barbet Schroeder, Mort. C'était tellement planant que je planais moi-même et que je ne prenais pas le micro, vous voyez, voilà. Voilà ce que ça fait, les Pink Floyd. Nous allons rester justement...
En dehors du temps, quoi.
Voilà. On va rester dans votre... Justement dans vos... Dans votre participation, si je puis dire, à la musique de film, parce que vous le disiez, vous le rappeliez, vous avez fait composer plus d'une vingtaine de, ouais, de BO, donc c'est quand même très important.
Et je demande pas mieux que d'en faire d'autres maintenant que je suis revenu.
Et donc voilà, si les producteurs nous écoutent, je sais qu'il y en a qui nous écoutent.
Avis.
Avis aux producteurs, avis aux réalisateurs. Charlie Lécouture est en France, il souhaite composer pour le cinéma.
C'est un exercice
que vous aimez. Donc.
C'est vraiment un truc de musicien. Tu vois, c'est pas un truc de chanteur, puisque finalement les gens oublient qui tu es, mais en termes de d'expression créative, je trouve que il y a plein de choses à faire, et malheureusement on est dans des schémas qui sont quelquefois un peu téléphonés, alors que je crois que quand il y a un film, et comme c'était le cas par exemple pour Ciao Pantin, je m'excuse de le dire,
mais c'est une transition toute trouvée, nous allions vers Ciao Pantin.
Mais ça donne au film une esthétique particulière. Celle qui m'avait énormément marqué, c'était la musique de Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud. Tu mets une musique entre guillemets traditionnelle là-dessus, et le film il tombe entre guillemets. Alors je dis pas ça forcément pour me vanter par rapport à Ciao Pantin, mais ça c'est sûr que Trainspotting par exemple, ouais, c'est des films qui sont qui ont une couleur, une âme grâce à la musique. C'est pas léger, la musique, ça, si on le considère autrement comme quelque chose pour combler le silence par exemple, parce que je sais qu'il y a des réalisateurs qui laissent et qui ont tellement peur que leur phrasé soit interprété d'une manière spéciale qu'ils mettent pas de musique du tout. Mais quand il y a une symbiose qui s'opère, je suis désolé, mais c'est vraiment quelque chose de très très créatif, quoi. Enfin,
c'est la bonne occasion de rappeler qu'un film a trois auteurs en France au moins: son scénariste, son réalisateur et son musicien.
Ah, oui.
C'est dire si la place qui est accordée est signifiante.
Sauf que souvent la musique elle arrive après, et donc le metteur en scène, s'il n'y a pas eu une collaboration en amont, est quelquefois déstabilisé par l'apport que va faire la musique, qui peut changer du tout au tout l'appréhension ou la compréhension de certaines scènes.
Alors pour ce Ciao Pantin de Claude Berry en 1983, vous avez composé, vous le disiez, la BO, et dans cette BO, eh bien il y a une chanson de et par vous qui s'appelle Retourne-toi. On va l'écouter tout de suite en rappelant que ce film de Claude Berry a permis de montrer que Coluche était aussi un grand tragédien. Voilà, et ça a été une façon
de... La face cachée de...
La face cachée du clown. Voilà, il était aussi un clown triste. On écoute votre chanson.
À 16 ans, j'en avais marre. Adolescent au départ, le lycée tout quitté, sur le bord du trottoir, j'écoutais des mélodies faciles, leitmotiv qui font penser à rien. Et je vais chanter pour guérir. Retourne, retourne-toi. Mais j'avais bien peu de choses à faire, et peu que j'avais me débordé. Trop jeune pour redouter la mort, prendre un train pour jamais. J'écoutais des mélodies faciles, naïves, utopiques, sans oser le dire pour me protéger. Retourne, retourne-toi. Thank you. ne savais rien faire que courir après moi-même. Parler à paître, identité perdue, longues attentes. Je rentrais le cœur en plein d'espoir déçu. J'écoutais des mélodies plus faciles. Retourne-toi. Besoin d'amour sous la bajoue et d'aventure l'après-midi. Dis-moi je t'aime, je suis maladroit. Dis-moi je t'aime tout simplement. Retourne, retourne-toi.
Je veux pas que tu rentres dans cette chambre.
Mais j'ai touché à rien. C'est à qui cette chambre? C'est la chambre de ton fils? Où il est?
Ferme la porte, laisse-moi, je vais me reposer.
Avant un extrait du film Ciao Pantin, nous écoutions la chanson qu'a écrite pour ce film Charlie Couture. Et la chanson, c'est Retourne-toi.
Ciné qui chante.
Alors pour l'inspiration, musique.
Sur France Inter.
Charlie Couture, alors ici, nous écoutons théoriquement des chansons et pas d'instrumentaux, mais parce que vous nous l'avez demandé et parce que nous ne pouvons rien vous refuser, on va quand même écouter au moins un instrumental qui est celui tiré du film de Cédric Clapiche, ni pour, ni contre. Entre parenthèses, d'accord. Bien au contraire, fermez la parenthèse. Et la musique en a été écrite par Loïc Dury. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Ben, là, par exemple, je trouvais aussi que dans ce film de Clapiche, qui est quand même un film un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est parce vrai. Que s'il y a le côté film policier,
polar,
on va dire,
oui.
Et puis avec des références au polar des classiques des années 70, par exemple.
Au polar de braquage.
Justement. La musique donnait au film une particularité, un certain modernisme. Mais là, vous avez choisi un extrait sans parole, si je puis dire, mais il y a des bonnes chansons aussi dans le truc. L'ensemble était bien, et la musique de Dury colle bien avec les films de Clapiche, d'accord.
Ça nous permet en fait de nous livrer un petit exercice qui est toujours intéressant, c'est justement, on va passer les premières mesures, et à tous les
d'accord.
sens du terme, du film, c'est-à-dire à la fois
d'accord.
les premières images et les premières notes qu'on entend avec effectivement la voix off de Vincent Elbaz, qui est
ouais.
le héros du film. On écoute tout de suite.
J'ai toujours aimé les Champs-Élysées. J'ai toujours rêvé d'être là, d'en faire partie. Je voulais être comme tous ces connards friqués. Et moi, je suis comme tout le monde. Je veux en croquer. Mais moi, je suis pire que tout le monde. Alors forcément, quand tu veux ça, faut du pognon. Beaucoup de pognon.
Thank you.
Et voilà comment nous entrons dans le film Ni pour ni contre, bien au contraire, de Cédric Clapiche en 2003 avec cette musique signée Loïc Durie. Après, on se fait chacun son cinéma. C'est aussi le bonheur d'écouter des sons de cinéma à la radio, c'est que vous aurez fait vous-même votre générique de début en images. Dites-moi, Charlie Couture, en vous écoutant, je me pose quand même une question. Vous n'auriez pas envie d'écrire une comédie musicale pour le cinéma ?
Oui, pourquoi pas. J'avais fait j'ai fait une Alice au pays des merveilles comédie, mais pas musicale. Disons musicale, oui, pardon, mais pour le patinage.
Scène, voilà, mais pas pour le cinéma.
Qui n'avait pas été fait pour le cinéma. Ouais. J'écris de temps en temps des histoires où je retravaille sur les scénarios d'une de mes filles, Shan, qui est réalisatrice et donc qui quelquefois j'ai le privilège ou la chance de pouvoir intervenir sur le sur la chose avant qu'elle n'existe. Shan est jeune, elle écrit ses propres histoires, et c'est marrant parce que en fait, au départ, moi, quand je suis entré aux Beaux-Arts, j'avais le rêve de devenir metteur en scène de cinéma.
Nous l'avons pas encore dit, mais je voulais vous faire.
Voilà. Le cinéma m'aurait permis de relier à la fois ce que je fais dans le domaine de l'image, de l'écriture et du son. Et puis, en entrant aux Beaux-Arts, en fait, j'ai appris des techniques et chaque fois, ça m'a mené à prendre du temps pour essayer de développer l'un, l'autre et le troisième. Et ce qui fait que, paradoxalement, aujourd'hui, je reviens dans le cinéma, mais par le biais de ma descendance, puisque Yamé est comédienne. Elle a joué d'ailleurs avec Cédric Clapiche. Yamé, c'est ma plus jeune fille. Elle était dans les Victoires à Dami, à Cannes, enfin cette année, etc. Et puis mon autre fille est réalisatrice et elles font des trucs souvent ensemble. Donc voilà.
Bon sang ne saurait mentir, comme on dit. Voilà.
Mais le fait est que le cinéma est présent dans la mesure où, même quand je vous le disiez tout à l'heure, quand j'écris une chanson, en fait, j'essaye toujours de la visualiser.
Vous la
visualisez.
Une belle formule.
C'est ça.
Une belle formule. Alors, voilà un beau film, évidemment, qu'on aime beaucoup ici. Vous en avez choisi la chanson principale. Alors, il se trouve que c'est une chanson que beaucoup de nos invités nous demandent. C'est normal, Le Tourbillon par Jeanne Moreau.
Ouais.
Du film de François Truffaut.
Bien sûr.
Juliette Jim, bien entendu. Alors, pardon, mais on va faire un petit pas de côté parce qu'il se trouve qu'une grande chanteuse, une autre grande chanteuse française, pas une actrice, elle, mais une grande chanteuse française, Francesca Soléville, qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album par ailleurs, mais Francesca Soléville, elle a repris très tôt d'ailleurs ce tourbillon, et on avait envie de vous faire écouter cette version. Avant la version, on va écouter par pur plaisir, un petit extrait quand même du film où on entend notamment la voix de Jeanne Moreau.
Catherine était contente du succès de sa ruse. Jim et Jules étaient émus comme par un symbole qu'ils ne comprenaient pas.
Ou bien je rêve, ou alors il pleut.
C'est peut-être les deux. Alors s'il pleut, partons au bord de la mer. On part demain. Oh, le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Attention, prêt. 1, 2, oh.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. L'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés. Puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là. Elle est retombée dans mes bras. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
C'était la version du tourbillon par Francesca Soléville, créée évidemment, nous le disions, par Jeanne Moreau pour le superbe film de François Truffaut, Jules et Jim en 1962. Cette chanson.
Et puis la chanson et le film me touchent parce que l'un des deux était le père de Stéphane Hessel qui avait été le patron de résistance de mon père et qui m'avait remis la médaille, la Légion d'honneur quand. Je l'avais eu, mais donc il y a quelque chose ouais. En regardant le film, c'était l'impression de connaître comme ça. Quelquefois, on entend des histoires qui vous sont racontées ou on croise des gens qu'on croit déjà connaître ou avec lesquels on a une intimité particulière qui fait que ça change quelquefois la relation qu'on a avec une histoire ou avec un livre ou avec un disque d'ailleurs, une chanson en fonction de sa propre intimité, si je puis dire. Mais effectivement, Jeanne Moreau, qui était une actrice incroyablement sexy, je veux dire, avec un charme, on va dire, et un naturel que je trouvais fascinant, quoi.
Avec une chanson en plus qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été créée pour le film, mais préexistait, et c'est Truffaut et Moreau qui se la sont appropriée. Voilà, qui ont capté, non pas du tout l'héritage, mais juste la chanson. Ouais. Et c'est une chanson qui reste, évidemment. C'est une chanson, on rêve en tant qu'auteur-compositeur d'en créer comme ça de ces chansons qui...
Ah bah oui,
passe les temps, les modes qui tourbillonnent dans nos têtes.
Sans oui, cesse, oui, mais c'est pas comme ça. C'est comme La Fontaine a écrit 400 fables, on en connaît 5.
Exactement.
Il n'a pas écrit les 400 en disant j'espère qu'il y en a eu une sur les 400. Merde, qui vont quand même rester, non?
On va parler de mon corbeau un jour ou l'autre.
Non, le mec il écrit parce qu'il pense qu'il doit le faire, et puis après il se trouve que les concordances de ouais. l'histoire, les hasards, la chance, il y a une part d'imprévu dans la réussite, il faut bien le reconnaître. Quand tu gagnes une course, au départ, tous les mecs qui sont au départ de la course ont l'espoir que d'arriver en tête, mais il y en a un parmi ceux-là, il va se tordre la patte ou je sais pas quoi, il va bouffer une merde la veille et du coup, il va être en retard, etc. Tu sais pas. Il y a une part de chance dans l'existence qu'on est obligé d'admettre même si on est dans un monde qui est un monde qui essaye de donner la sensation que tout est prévu d'avance, les gens quand une chanson est extraite d'un album en disant ah vous le saviez à l'avance que ça allait faire un succès, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un disque que de succès comme ça? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On fait les trucs et puis au milieu de ça, ben il y en a une qui sort, et ben cette chanson là elle a quelque chose en elle. Peut-être qui fait que elle c'est comme les musiques d'Éric Satie, elle passe les modes. Il y a quelque chose à l'intérieur qui la dépasse, mais que je suis certain elle savait pas même elle-même quand elle l'a fait, quoi.
Et c'est celui qui a écrit Comme un avion sans ailes qui nous parle. C'est dire s'il sait de quoi il parle. On va passer à un autre de vos collègues, ouais. qui est Bob Dylan. dans Pat Garrett et Billy the Kid de Sam Peckinpah,
1973,
sacré réalisateur américain, western et sacré chanteur avec cette chanson qu'on va écouter.
Ah bah alors là, celle-là j'aurais bien voulu l'avoir fait aussi, on va dire, hein, parce que Knocking on the Heaven's Door, une chanson plus simple que ça, tu meurs. Je l'ai reprise d'ailleurs sur scène sur la précédente tournée et c'est une chanson tellement il a trouvé un E égale MC2, quelque chose très simple, mais qui fonctionne, qui est immédiatement reconnaissable. Tu sais, on dit que Einstein avait au départ plus de 18 pages pour faire sa démonstration, et les deux ans qu'il a passé ont été pour essayer de ramener cette formule à un essentiel, qui a été le fameux égale MC2. Ouais. En musique, c'est un petit peu la même chose. Tout l'art, il est d'arriver éventuellement à la pureté du design des sculptures de pompons, par exemple, qui fait qu'avec essayer de ramener les choses à un essentiel, il y a de ça dans Knocking on the Heaven's Door.
On écoute tout de suite Bob Einstein, D-Line.
J'ai pas vu le kid. Si c'est sa piste, que t'es venu renifler. Par contre, pour une explication d'homme à homme, je suis à ton service.
Je veux un renseignement.
Ah, des vieux copains comme nous. Moi, je dis qu'on ne doit pas se faire des coups pareils. On n'est déjà plus tellement nombreux, hein. Rappelle-toi, toi et moi, on est arrivés ensemble dans ce pays. Ça fait combien d'années déjà, Pat?
Oh, ça fait longtemps, 14 ou 15 ans.
Merci Charlie Descoutures, c'était votre choix et nous le partageons ô combien. Votre titre suivant, si je puis dire, c'est une nouvelle collaboration que vous avez faite pour le cinéma. C'est un film de John Wolfe, La salle de bain, en 1989, d'après un beau roman de Jean-Philippe Toussaint.
Ouais.
Il se trouve que dans le film, il y a quelqu'un qui s'appelle Tom Novembre.
Ah oui, oui.
Ouais, vous souvenez plus? Ouais, moi je vous le dis.
Un bon acteur, tout en puissance.
Qui a un frère qui est un très bon chanteur aussi, donc ça fait vraiment...
Je ne le permettrai pas, je ne le connais pas.
Très bien. Tout ça reste en famille. Et la chanson s'appelle Inside of Me. C'est vous qui l'avez écrite. Oui. Vous avez dit d'ailleurs quelque part que c'était une des collaborations pour le cinéma dont vous étiez le plus fier.
Bah, c'était très amusant en fait quand j'ai fait Ciao Pantin. Il y avait beaucoup de choses que je maîtrisais pas, donc j'avais essayé. Je me souviens que pour Ciao Pantin, j'avais donné une cinquantaine d'extraits musicaux en disant faites votre choix dans tout ça. Moi, je pense que etc. Mais alors que sur John Lvoff, il savait lui assez précisément ce qu'il voulait. Et je me rappelle d'une anecdote en termes de composition. J'avais le sentiment d'avoir trouvé la musique du film, parce que quand je lis en fait un scénario, je le fais plus à l'écriture que par rapport aux images. Et donc j'entends la musique et je compose la musique, je commence à l'enregistrer et je fais entendre à John en lui disant alors ça va. Et il me fait, et je sens qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je lui dis, mais qu'il y a un truc qui bute. Bah, il dit, je sais pas. C'est un film noir et blanc. Il me dit, je dirais plus que c'est un film blanc et noir, et que les noirs sont là pour souligner les ombres, plutôt que les blancs ne viennent dans la nuit comme des brillances. Et là, tout d'un coup, je me dis, ah ben d'accord, ok, donc il faut que je remplace les cuivres qui ont cette brillance par des bois qui sont beaucoup plus secs. Et juste en changeant le timbre des instruments, en gardant la même ligne mélodique, ben ça s'est mis à fonctionner formidablement. Comme quoi, quelquefois, c'est une musique, c'est pas seulement des notes, mais c'est des sons. C'était un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Et puis, ce sont des mots, parce que cette idée d'avoir un verset blanc et noir, noir et blanc dans la phrase,
ben, ça a l'air de rien, mais ça change indication. Tout. Voilà, ça change, c'est tout. Ça. Absolument. Comme quoi, une histoire de symbiose.
On écoute tout de suite, on vous écoute tout de suite chanter Inside of Me pour cette BO du film La Salle de Bain.
C'est peut-être pas très sain, non, de vivre comme ça, plus ou moins reclus dans une baignoire. Je devrais peut-être prendre un risque, non?
Oui, si tu veux.
Le risque de compromettre ma quiétude. La quiétude de ma vie abstraite.
Bon, j'y vais. Ce soir.
Diving inside of me. I am. Inside of me, I can see you. What a nice world. Inside of you, on the side of a road, on the side of my life, like a slide off the line, diving deep inside of you, peace and quiet inside of you. Inside of you, I could be you, but inside of me, I am free.
C'était notre invité du jour, notre programmateur musical Charlie-Élie Couture, que nous écoutions chanter dans Inside of Me, extrait de la BO du film La salle de bain de John Voight en 1989. Et écoutez, sans plus tarder, parce qu'il va mettre le feu, nous passons maintenant à Elvis Presley.
Ladies and gentlemen, a little while back, I had a kind of a vacation with a bunch of men in a big place away out yonder, and we always had a lot of fun with this one. The Jailhouse Rock.
C'est grâce à notre invité du jour, Charlie-Élie Couture, que nous écoutions Jailhouse Rock par Elvis Presley dans le Rock du bagne de Richard Thorpe en 1957. Un petit mot sur le King Elvis, Charlie-Élie Couture.
Ah ben, c'est sûr que sans Elvis, il y aurait pas Jim Morrison, par exemple.
Par exemple.
Il y aurait pas beaucoup de où est-ce que je lisais que. Enfin bon, bref, le Presley a rendu physique la musique, c'est-à-dire ouais. que jusque-là la musique ça s'écoutait, et puis tout d'un coup c'est comme si le diable était dans la boîte, quoi, tu vois.
Et il sort, il est sorti.
Et voilà, et il est sorti. C'était Bruce Springsteen qui se référait,
le patron,
à Elvis Presley ouais. comme ayant été celui qui tout d'un coup lui avait donné l'envie de lui-même, si je puis dire. Ouais. Et donc, au-delà du côté superficiel de ce que ça peut représenter, parce que j'écoutais ça en me disant, mais s'il y a bien un truc que ça n'évoque pas, c'est ce que c'est vraiment que l'incarcération. Une incarcération, c'est terrible. J'ai ouais. visité la prison d'Alcatraz, par exemple. T'as pas envie de danser du tout.
Non, pas
d'abord,
vraiment,
t'as pas la place dans les cellules et tout ça. Il y a un univers carcéral qui est tellement éloigné de ça, et pourtant il n'hésite pas à utiliser le mot, quoi.
Sans commentaire, hélas, parce que le temps nous presse. Okay. On va passer à votre dernier extrait, votre dernier choix, c'est Please Mr. Kennedy, un extrait du film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, en 2013. Ah ouais, on écoute tout de suite.
Zivra.
C'est bon? Oui, ok. Parfait.
Shout.
Please, Mr. Kennedy, prise une et c'est parti.
Et un, deux, et un, deux, trois, quatre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 second, please.
Please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Don't show me in the outer space.
Oh, please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Don't show me in the outer space.
I sweat when they stuff me in the pressure suits. Rubble helmet, dashboard and boots. Nowhere up there.
Outer.
In gravity zero.
Space.
I need to breathe.
Outer.
Don't need to be a hero.
Space.
Are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Please don't show me in the outer space.
Oh, please, Mr. Kennedy.
Uh-oh.
I don't wanna go.
Please don't show me in the outer space.
I'm 6'2", and so perhaps you'll tell me how. Make her a widow.
Space.
And who will play catch out in the back with our kid? Don't please, Mr. Kennedy.
Charlie, écoutez, vous vouliez nous dire un petit mot sur ce dernier choix musical.
Juste, au-delà du fait que ce film est un film qui raconte l'histoire d'un chanteur qui a eu du mal à exister une période, l'ensemble des films des frères Cohen est un film dont j'apprécie incroyablement la bande son. Je me souviens dans ce film-là qu'à un moment donné, on entendait les pas du chat qui marchait sur le truc. La bande son d'un film, c'est la musique, mais c'est l'ensemble des sons, parce que les sons, la musique, ce sont des sons. Voilà.
Je m'en veux de vous interrompre. Merci, Charlie Couture, d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. J'en bafouille. Je rappelle que votre nouvel album sorti cette année s'intitule Même pas sommeil. On le recommande vivement à nos auditeurs, tout en leur signalant qu'ils pourront venir vous voir sur scène en octobre à Dijon. Suivront Cannes, Caen et Marseille, notamment pour cette fin d'année. Cette émission a été subtilement préparée par Mathilde Verfaillie et Margot Page. Elle a été allègrement réalisée par Sonia Leglène, avec à ses côtés aujourd'hui Rémi Sistiaga. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note. Et puis on reste en contact via le podcast et franceinter.fr, assurément. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec notre playlist des chansons, des films des années 2010.